Radio Campus Lille, 19h.
Mais alors, et je vais vous dire quand même, en tant que Dakarquois, j'ai jamais entendu pas trop parler de Radio Campus. Mais à partir d'aujourd'hui, et je vais te brancher tous les jours sur le 106.6, bande d'enculés de Lillois.
Française, français, c'est la merde. Je suis contaminé par le Covid-19, ça fait chier. C'est pourquoi j'ai décidé de sortir au maximum afin de augmenter massivement la propagation du virus. C'est la priorité absolue. C'est que tu es vos amis, vos parents, vos grands-parents. Il faut que tu aies au maximum les personnes vulnérables. Respectons rien. Je veux aussi ce soir frapper plusieurs milliers de scientifiques. J'en ai rien à foutre. Putain, je suis en colère. J'ai envie de sortir niquer l'ensemble des scientifiques, médecins, infirmiers, mais aussi l'ensemble de vos amis, vos parents, vos grands-parents. Je vous demande de rester chez vous pour au moins 70 ans. Toutes les entreprises doivent agir sur leurs salariés. Nous devons tous céder à la panique, à la peur. Rien à foutre.
On veut bien être gentil.
Il est interdit d'entrer dans les ateliers.
Il est interdit d'arrêter de travailler. Il est interdit de parler et de chanter.
Il est interdit de lever le nez de la journée.
On est trop gentil.
Lorsque l'on est ouvrière, ouvrière, un atelier, le règlement est sévère et l'on doit s'y conformer. Si on était millionnaire, ce serait la liberté. Mais on est des ouvrières, ouvrières en atelier.
Il faut pas non plus
croire. Sur un, deux, trois, quatre temps. Aucune importance quand on est mon danse. Danse sur le règlement.
Vous vous rendez compte que votre plateau est toujours surreprésenté par la gauche?
On veut bien être gentil, mais pas con.
La première chose qui te saute aux yeux, les briques, c'est les briques rouges.
C'est le capitalisme.
Jouez pas au con avec lui.
On est trop gentils.
Le rouge, c'est la couleur du sang. Le rouge, c'est la couleur des Indiens. C'est la couleur de la violence.
On est gentils. Hein? On est toujours gentils.
C'est tout ce capitalisme.
Le rouge, je veux dire, arrête-toi.
Mais le rouge, c'est aussi la couleur du vin. Le vin qui dit vin, dit pot de vin. Parce que tout ça, c'est magouille et compagnie. C'est politico. Tu vois, c'est des histoires de fric.
Je vote pas pour les capitalistes, hein. Quoi, je suis ouvrier.
On est trop gentil.
Salut, c'est Gros Dada, vous êtes bien à l'écoute de Radio Campus Lille 106,6 et pendant une heure, on passe au rouge. Reconfinement oblige, on se retrouve à refaire des émissions enregistrées. Merci à Seb au passage pour la réalisation. Après les attentats de Conflans-Sainte-Honorine et de Nice, est-ce qu'on peut encore entendre des trucs qui ne soient pas des conneries? Est-ce qu'on peut encore penser différemment que dans le cadre du choc des civilisations? Nous, on est chaud et pour tenter le coup, on a tendu le micro à Philippe Allienne qui nous parle de ce qui nous brûle la langue, le terrorisme islamiste. En période de confinement, vos chroniques habituelles vous suivent. On retrouvera en fin d'émission Massy et Toto qui nous surprendront sur le nouveau confinement, bien sûr. Flavien qui nous proposera la première chanson de cette émission. Et puis, bien sûr, le talon de fer de Jérôme Leroy à relire sur Liberté Hebdo. Tiens, d'ailleurs, Philippe Allienne, notre invité, est le rédacteur en chef de cet hebdomadaire communiste du Nord.
Le pape, plus à gauche, c'est dur. C'est drôle tout de même. Ce qui se passe avec le pape François. Il est devenu l'ennemi numéro un de la droite dans le monde. Le pape serait de gauche, mondialiste, et même, depuis l'encyclique de 2015, Laudato Si, écologiste, un cauchemar, bobo premier au Vatican. Bref, un pur fruit de ce qu'on a appelé la théologie de la libération, même si en ce qui concerne François, les choses sont un peu plus compliquées et qu'il n'a pas toujours été celui qu'il est maintenant sous la dictature militaire argentine. Pour préciser les choses, en ce qui me concerne, mon communisme n'a jamais été incompatible avec le message évangélique, bien au contraire. Je pense que les Actes des apôtres sont un texte aussi émancipateur que le manifeste. Cette apparente contradiction a pourtant été très répandue à une époque, notamment en France, en Italie et en Amérique latine. On peut la résumer dans les propos de Don Helder Camara, archevêque de Recife sous une autre dictature, la brésilienne. « Quand je donne à manger aux pauvres, on dit que je suis un saint. Quand je demande pourquoi ils sont pauvres, on dit que je suis un communiste. » Aujourd'hui, c'est l'encyclique Fratelli Tutti qui rend furieux les milieux ultra-conservateurs parce qu'elle pousse jusque dans ses conséquences pratiques le message évangélique. Placée comme Laudato Si sous le signe de François d'Assise, elle invite à constater l'état du monde aujourd'hui Et ce n'est pas gai, sauf pour cette part de plus en plus infime de la population hors sol des hyper-riches. Ce séparatisme social, François se contente d'indiquer le chemin pour y mettre fin. Je cite « Protéger le monde qui nous entoure et nous contient, c'est prendre soin de nous-mêmes. Mais il nous faut constituer un « nous » qui habite la maison commune. Cette protection n'intéresse pas les pouvoirs économiques qui ont besoin d'un revenu rapide. » Fin de citation. Les identitaires de tous bords n'ont plus envie de dire « nous ». C'est leur affaire, mais ils n'ont pas à faire leur marché dans le catholicisme pour y prendre ce qui les arrange. Et ce qui les arrange, ce n'est certainement pas cette critique orwellienne d'un monde où la novlangue règne universellement au profit du Big Brother libéral. Je cite de nouveau « Un moyen efficace de liquéfier la conscience historique, la pensée critique, la lutte pour la justice ainsi que les voies d'intégration consiste à vider de sens ou à instrumentaliser les mots importants. » Que signifient aujourd'hui des termes comme démocratie, liberté, justice, unité? Ils ont été dénaturés et déformés pour être utilisés comme des instruments de domination, comme des titres privés de contenu, pouvant servir à justifier n'importe quelle action. Fin de citation. Sincèrement, dans un monde de plus en plus à droite, qui semble déraisonner dans tous les domaines, qui dit mieux aujourd'hui? Et avec cette voix qui porte à travers le monde entier.
On passe au rouge. Retrouvez-nous pendant 2 mois sur campuslille.com. Il n'a pas eu le temps de s'installer dans sa chronique « La jeunesse en merde » que Flavien est déjà confiné. Voilà. Va-t-il sombrer, lui aussi, dans un délire nationaliste ?
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve encore une nouvelle fois pour la chronique « La jeunesse en merde ». Alors, cette semaine, je me suis posé la question de savoir vers quoi nous allons aller et j'ai décidé de partir sur une musique qui s'appelle « Douce France » de Cynique qui parle justement d'une justice à deux vitesses ou encore des inégalités. Cette musique est très actuelle puisqu'elle parle du mouvement des Gilets jaunes, elle parle des violences policières, elle parle également de racisme et que toutes ces choses au final se rejoignent. Et qui parle même de la crise sanitaire du coronavirus puisqu'on entend même dire au lieu d'acheter des gilets pare-balles, achète plutôt des masques. Car en effet, vous avez pu le constater que les masques étaient payants et qu'ils étaient très chers, alors que la France en avait commandé pour les revendre au final et que ça coûte très cher, pourquoi pas avoir des masques gratuits, disponibles pour tout le monde, car c'est un besoin nécessaire pour ne pas attraper ce virus qui, depuis plusieurs mois maintenant, sévit sur le monde entier. Et qui met en cause évidemment le gouvernement et les gens de l'Assemblée nationale qui pour lui sont moins honnêtes que des personnels de santé. Car en effet, si on veut aller plus loin dans la réflexion, des personnes à l'Assemblée nationale qui votent des lois sont payées beaucoup plus cher que des personnes qui nous soignent. Et encore une fois, il revient aux inégalités. Alors il est temps pour moi maintenant de vous laisser écouter ce son « Douce France ».
Je vais me chanter une vie qu'on voit pas à la télé. Il y a leur monde et il y a le nôtre. Douce France.
Douce France.
Parle de douce France. Tu as brisé nos pères, ils le disent pas, mais c'est ce que tous pensent. La vie, son lot de drames, le sang bousille le tissu. Tu parles de Notre-Dame, tes prisons sont pleines de fissures. Qui sont les bons, qui sont les barbares, ouais. Choisis ton camp, t'es gilet jaune ou gilet pare-balles. Plus le temps de regretter, les policiers sont bizarres. Braquer un retraité, c'est tirer sur son histoire. Leur tête sur toutes les chaînes, pourquoi la mienne est bannie? C'est eux qui puent la haine, mais c'est de moi qu'ils sont en panique. Zineb, Eric Zemmour, les mêmes à faire le forcing. Les chameaux veulent intégrer la filière porcine. Oui, tes enfants ont fait des bracos. Épuisés de la misère, du manque d'oseille, des murs en placo. Y'a ceux qui vont en tôle, leur nom n'est pas un sésame. Et ceux qui violent des gosses et qui en plus reçoivent un César.
Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Oh douce France,
je ne crois plus à toutes tes promesses. Est-ce un délit? Je suis l'enfant que tu voulais pas, ton déni de grossesse. C'est moi que tu traites de voyou, je rêvais de voir la crique. J'ai juste volé à Carrefour, toi tu volais l'Afrique. On nous a dit la grippe, en vrai le bail est malsain. Sors pas où les amendes arriveront plus vite que le vaccin. Un peuple qui n'en peut plus, des flics ont mis des casques. Avant d'acheter des matraques, essaie d'acheter des masques. Marine a même des fans, adulés par quelques soulards. Plus dangereux qu'un milliard de femmes en foulard. Tu as tué Ménel, sa carrière entre les phalanges. Bien sûr que ça m'énerve, ils sont Charlie quand ça les arrange. Putain d'immunité, DSK reste le taulier. Les pauvres et les puissants, Parento nous sort le collier. Ta politique s'achète, un jour le monde va trembler. Y'a plus de gens honnêtes à la santé que dans l'assemblée.
Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans. France.
On s'est détruit donc on a rompu. Parce que la haine, et si tu m'aimes encore un peu, sache que moi non plus. J'ai cru qu'on s'aimait tous, naïf, j'étais la bonne poire. Facho, mais tu diras que c'est pas vrai, que t'as un pote noir. T'aimes pas ceux qui s'en sortent, mentalité de sorcière. La haine fait des rayures, certains zèbres envient ma portière. À genoux devant tes bottes, tu lèches ou t'es un méchant. Tu prends pas les meilleurs, tu prends tes potes, on dirait des champs. Le vase a débordé, les armes sont des joujoux. Rejetés de la portée, on ne fait pas partie de tes chouchous. Une mère qui tue ses enfants, voilà comment je te vois. Dis-moi combien tu m'aimes, au lieu de me dire combien je te dois.
Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Oh douce France.
Vous êtes à l'écoute de Radio Campus sur le 106,6. Philippe Allien est le rédacteur en chef de Liberté Hebdo. Il nous a accordé une longue interview 15 jours après la décapitation du professeur d'histoire Samuel Paty, 48 heures après l'attentat de la basilique de Nice. On s'interroge avec lui sur le terrorisme et on a envie d'entendre autre chose que les conneries habituelles racistes de l'ère du temps. Dans ce premier extrait, il nous parle de la une de Liberté Hebdo du 22 octobre dernier et de ce qui a amené le terrorisme en Algérie dans les années 90.
Le but n'était pas, évidemment, de tomber dans le piège de l'anti-islam, évidemment pas, ou anti-quoi que ce soit, d'ailleurs, anti-terrorisme, oui, certainement, ou anti-extrême droite. Mais donc, on a décliné, et j'ai demandé à notre dessinateur, Babouze, de nous faire un dessin pour la une. Mais quand je demande à quelqu'un de faire ce genre de travail, je lui dis évidemment pas ce qu'il faut faire. Il est libre. Donc il m'a dit, ben, ça tombe bien, j'ai une idée, mais je ne te dirai pas laquelle. Je dis, mais encore, parce que je suis curieux quand même. Il me dit, ce ne sera pas Mahomet. Bon, ben, très bien. Il y en aura suffisamment à l'intérieur. Et il nous a envoyé ce truc. Alors moi, quand je l'ai reçu, franchement, je me dis, oui.
Tu peux décrire ce dessin pour les auditeurs?
Oui, je peux. Ben, c'est un dessin qui, évidemment, fait penser au professeur qui a été décapité. J'ai entendu ce matin à la radio, sur une radio nationale, qu'il ne faut pas dire, ce sont les auditeurs qui disent ça, il ne faut pas dire décapité, c'est pas bien, il n'y a pas besoin de le dire, au contraire, il faut le dire. Donc ce professeur est décapité, sa tête est presque tombée, et puis c'est difficile de décrire un dessin. Et puis le commentaire, la petite phrase du dessinateur, c'est « rire de tout, à gorge déployée au 21e siècle ». je pense que ça dit tout. Nous sommes au 21e siècle, et au 21e siècle, on égorge des gens pour avoir, non pas fait, mais pour avoir montré et expliqué un dessin de presse. Quand on en est là, au 21e siècle, je crois que, franchement, il y a vraiment de quoi se poser des questions. Et voilà. Et donc, j'ai expliqué ce matin, nous avons publié les courriers qui désapprouvaient, les courriers de lecteurs qui désapprouvaient ce choix. Aucun courrier de lecteur ne désapprouve les 23 pages qui suivent et qui sont quasiment toutes consacrées à ce dossier. Les dessins de Mahomet, les dessins du Christ, les dessins de Dieu, les dessins de Abraham, ça ne dérange personne. Les textes, ça ne dérange personne. La couverture, ça dérange quelques-uns. Alors moi j'ai dit, si on interdit, si on ne veut pas que des gens interdisent les caricatures de Mahomet, puisque ça se polarise là-dessus, malheureusement, nous, il faut qu'on fasse... Il ne faut pas qu'on rentre dans ce jeu-là.
Évidemment, complètement.
Il faut y aller dans les musées.
Complètement conçu.
Bien sûr que oui.
Oui,
bien
oui.
Évidemment, il faut y aller dans les musées.
Complètement.
Bien sûr que oui.
Et les rendez-vous se prenaient la veille pour le lendemain, quasiment.
Il faut sortir de l'ordinaire. Couper la tête de quelqu'un, c'est pire que tout. C'est pire que tout. Pour eux, Mahomet, c'est sacré. Pour ceux, quels qu'ils soient croyants ou pas, couper la tête de quelqu'un... Enfin, c'est sacré, et ça veut dire quelque chose. C'est un rite religieux pour certains. On ne fait pas ça. Donc, ils le font pour terroriser, c'est le cas de le dire. Donc, ça nous dégoûte, ça nous fait peur, ça nous fait peur, c'est le but. On a recommencé à Nice, là, hier. Donc, on le montre, on le dessine, on en rit. Parce qu'on ne rentre pas dans le jeu de ceux qui ne veulent pas laisser les gens s'exprimer. On a le droit de représenter le prophète, quel qu'il soit. On a le droit de se moquer de la religion. Nous sommes dans un pays laïque. Le droit de blasphème, il existe. Nous avons aussi, nous, le droit de nous moquer de nous-mêmes et de nos propres peurs. Et ça, c'est ça qu'on a voulu montrer avec cette couverture. Mais que je n'ai pas commandé directement à Babouze. Il est libre, il est journaliste. Babouze est un journaliste. Il a sa carte de journaliste. Et c'est un des rares... dessinateurs en France, ils ne sont même pas 10, à avoir une carte de journaliste dans sa poche, à jour, une cotisation, à jour. C'est un vrai journaliste, c'est-à-dire que quand il fait un dessin comme ça, c'est un édito qu'il fait. Donc moi, j'ai réagi d'abord quand je l'ai reçu comme un être humain, je veux dire, avec mes sentiments, et puis je l'ai montré comme ça, discrètement, à mes collaborateurs, notamment à ma collaboratrice, à Larry. Alors je dis, bon, c'est gagné. Si on peut rire de tout, à condition de le faire bien et de ne pas vouloir le faire en faisant du mal aux autres, et on jamais la question. Alors, les profs d'histoire géo, eux, ont tout compris, forcément. Et c'est toute l'histoire de ce professeur assassiné, à Conflans-Sainte-Honorine, qui avait tout compris, visiblement, et qui avait décidé... de faire son métier, hein. Je ne sais pas s'il a décidé de faire son métier, je ne sais pas s'il n'avait pas à le décider, mais qui le faisait bien et qui ne se contentait pas de faire un cours parce qu'il faut faire un cours. C'était un cours d'instruction civique, je pense bien. Il voulait transmettre et faire réfléchir les jeunes, ses élèves. Ce sont des collégiens, hein. Il voulait leur donner l'esprit critique. Leur apprendre à avoir un esprit critique. Et pour ceux que ça choque, a priori, vous pouvez sortir. Il ne les a pas virés. Vous pouvez sortir, il les a respectés. Mais j'espère que vous allez en parler ensuite entre vous et que vous allez revenir après, et je referai le cours. C'est ça qu'il a dû y avoir dans sa tête qu'on a coupée. Et c'est tout le sens de cette tête coupée, à mon avis, cette tête tranchée.
On s'est habillé de soutane à 500 billets. Au lieu de s'éclairer, on se sert du feu de Dieu pour s'incendier. Église, mosquée, synagogue ne doivent pas devenir des casernes. Considérez bien cet appel d'un croyant qui s'est fait lanceur d'alerte.
Moi, je puise mon expérience, mes observations de la décennie des années 90 en Algérie. Le sujet dont nous parlons, moi, je l'ai particulièrement découvert, effectivement, dans les années 90 en Algérie, parce que je m'intéressais à l'Algérie bien avant. à la société algérienne depuis les années, au moins, n'exagérons pas, je m'y intéressais dans les années 70, oui, c'était dur, et puis j'étais très jeune, dans les années 80 aussi, puisque les choses avaient beaucoup changé avec la disparition du président Boumediene, son remplacement par Chadli Benjedid, qui a commencé à ouvrir plus largement les portes. Je ne dis pas que Boumediene est innocent, mais il a ouvert plus largement les portes à la démagogie et donc à l'islamisme, qui demandait par exemple l'instauration d'un code de la famille, c'est-à-dire faire en sorte que la femme soit une mineure à vie. Ça, c'est le début des années 80. Et je me souviens très bien que dans cette première partie des années 80, on me racontait, parce que je n'étais encore jamais allé en Algérie, mais on me racontait que les jeunes filles, les jeunes étudiantes qui sortaient de l'université d'Alger, si elles ne portaient pas de foulard, risquaient fort, et ça leur arrivait pour certaines, de se faire balafrer les joues à coups de lame de rasoir. Il n'y avait pas le fils à l'époque, ça n'existait pas encore. Mais les frères musulmans étaient là. Et les Algériens savaient déjà en rire, le rire déjà, le rire algérois. Algérien, je ne sais pas. Algérois, certainement. Mais les Algériens ont un sens de l'humour extraordinaire. Ils les appelaient la bande FM. C'était le début des radios libres. De la modulation de fréquence, la bande FM. Bien sûr. Chez nous, c'est libéré. En Algérie, bon, ils nous suivent de près. Et ils appelaient les frères musulmans, oui, bien sûr, la bande FM, évidemment.
Complètement,
il faut y aller dans les musées.
Complètement conçu.
Bien sûr que oui.
Oui, oui.
Évidemment, il faut y aller dans les musées.
Complètement.
Bien sûr que oui.
Et les rendez-vous, je prenais la veille pour le lendemain, quasiment.
Même de ça, ils ont rigolé. Enfin, ils ont rigolé. Ça ne veut pas dire qu'ils ne voulaient pas le combattre, mais la résistance a commencé à partir de là. Et puis après on arrive très vite avec une politique qui n'est pas une politique très, très favorable au peuple algérien. On en arrive à 88, à la révolte des jeunes, qui est immédiatement confisquée par les islamistes, ceux qui se sont constitués en parti politique, en fait, qui est le FIS, le Front Islamique du Salut, qui est jusque-là très, très discret, très sympa, très gentil. Vous êtes pauvre, on vous donne à manger, venez à la mosquée, écoutez-nous, faut pas faire de mal à son frère, etc., etc. Puis après, ce sont les élections, on connaît la suite, arrêt du processus électoral. Quelques années plus tard, il y a une parenthèse avec l'arrivée de Boudiaf, le président Boudiaf, qui est un ancien combattant pendant la guerre d'Algérie. Retour de Boudiaf, qui lui veut faire le ménage, il se fait assassiner. Et là, ce ne sont pas les islamistes, ou alors, s'il y a des complicités, c'est le fait de... c'est la manière dont l'État s'est transformé au fil des années. Il est assassiné. Et l'année d'après, 93, on commence par assassiner en ciblant les gens. Voilà. Et c'est là que moi, je m'intéresse à faire un parallèle. Je ne sais pas si j'ai raison, mais on commence par assassiner un journaliste, intellectuel, écrivain, Tahar Djaout. Et puis après, il va y avoir une série. L'année 93 sera consacrée à l'année des journalistes qu'on va assassiner. Et puis après... on va s'en prendre à des professeurs, on va s'en prendre à des intellectuels, à des chirurgiens, ou médecins, à des avocats ou des juges. On va y aller catégorie professionnelle, c'est-à-dire tout ce qui fait qu'une société puisse exister. Et moi, le parallèle, je le fais ici avec notre société, qui est fondée sur des métiers importants. Et je n'oublie pas la fonction publique. On a aussi assassiné pas seulement des profs, mais aussi des policiers. J'ai cité les juges, des policiers, évidemment. Et puis, dans un cadre plus... Alors là, on faisait semblant de ne pas comprendre, des imams. Pourquoi des islamistes assassinent? Parce que ce ne sont pas de vrais religieux. Ce sont des terroristes qui poursuivent un autre projet de société.
Du Dieu unique à la monnaie unique. Si tu cherches l'histoire des religions, c'est au rayon tragicomique. Entre la Bible du sexe et le djihad pour les nuls. braquage du siècle, chapelet, Talmud, armée du salut. Des tablettes de Moïse en tableau de bourse. Des cadeaux des rois mages au caddie de course. De l'art du discours jusqu'au art de discount. Des salles de prière jusqu'aux salles de shoot. Sexe infantile dans la chapelle Sixtine. Du confessionnal à confession intime. Des minarets aux minerais émiratis. On fait des lance-pierres avec nos crucifix. Ta synagogue c'est le gang de Sinaloa. Les ayatollahs veulent des ayatéas. Pour quelques dollars tu deviens le mollah. Si t'égorges papa tombe le vers la kibla. Tu délayes la main à la jante birmane. Tu pleures ton hymen dans les jupes de l'imam. Tu veux de pauvreté jusqu'au vœu de célibat. Tes intérêts sales jusqu'à mère Teresa. In God we trust, comme Donald Trump. À force de descendre, je trouvais du pétrole. Tu fais le pèlerinage en overboard. Tu pars au djihad, c'est pas du airsoft. Ton nom d'Hare Krishna, je te vitriole. Tu vends des bouddhas sur Bangla Road. J'y ai vu des moines sur des Lady Boy. Le showroom du diable, c'est le temple des hommes.
Radio Campus Lille, disponible en DAB+. On continue de parler de la décennie noire en Algérie avec Philippe Allienne, le rédac-chef de Liberté Hebdo, qui fait le lien avec les attentats de Conflans-Sainte-Honorine et Nice.
Ça a duré une dizaine d'années à peu près, 93 jusqu'au début des années 2000. La décennie noire, oui, ça a été géré à sa façon par d'abord le président Zeroual et ensuite par le président Bouteflika. On voit ce que ça donne. Maintenant, ils sont au pouvoir. Voilà, ils ont intégré le pouvoir. On parlait d'islamisme modéré à l'époque. Moi, je faisais partie de ceux qui disaient ça n'existe pas. J'étais pour l'éradication de l'islamisme sur le plan politique. Sur le plan politique, bien sûr.
L'interdiction du fils.
Qu'est-ce qu'on fait, nous, ici, avec... Il y a aussi, bien sûr, l'interdiction du fils, en tout cas, l'éradication de c'est la même chose ici, quand on est démocrate et qu'on se bat contre un parti d'extrême droite, quoi qu'il dise, qui s'appelle Front National ou Rassemblement National. Il dit, nous ne sommes pas d'extrême droite. Moi, je fais partie de ceux qui disent, si, vous êtes d'extrême droite. Il y a des critères pour le prouver. Donc, je combats vos idées. Quitte à vous éradiquer de la scène politique. Ça veut dire que vous n'avez plus de visibilité. Mais ça, c'est un combat politique qu'il faut mener. Et ça, il y avait à l'époque deux camps, on se souvient très bien, mais qui s'étaient très mal interprétés de ce côté-ci de la Méditerranée. Il y avait les éradicateurs, quel vilain mot, et puis les conciliateurs, c'est-à-dire ceux qui signaient des contrats, un contrat en particulier, à Rome, à Sant'Egidio plus précisément, où on voyait le FLN, donc le parti historique qui était devenu parti au pouvoir, le Front de Libération Nationale, qui était le parti unique, qui ne l'était plus à l'époque, le FLN, le parti des travailleurs, donc le parti trotskiste, le FFS, le Front des Forces Socialistes, le PS, quoi. Donc des gens, des ex-révolutionnaires, entre guillemets, des gens de gauche, et puis le fils, le Front islamique du salut, qui était interdit, mais dont les représentants étaient à Sant'Egidio pour signer avec un type qui disait « Moi j'ai du sang sur les mains, j'en suis fier ». Et ces gens-là ont signé parce qu'il fallait réconcilier les gens entre eux. Il va tout de suite y avoir deux camps en Algérie monter en épingle beaucoup plus ici qu'en Algérie, j'ai l'impression, ce sont ceux qui sont partisans du nom. Ce sont les opposants à ce que nous, on appellerait le fascisme, les antifascistes. Mais le terme ne convient pas. Alors ce sont ceux qui ne veulent pas d'une société rétrograde, d'un califat, en fait, en Algérie. Et il y avait un projet de société qui allait dans ce sens-là. C'était le projet porté par Madani et Belhadj. C'était Belhadj le second. Et qui ont réussi à force de démagogie, mais aussi parce que l'État algérien était très 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 en dessous de tout. Il y avait la fameuse rente pétrolière, la fameuse manne pétrolière. C'est-à-dire, ce qui amenait la richesse au pays n'allait pas au peuple. Ça allait dans les poches d'un petit groupe de personnes autour de l'armée, d'ailleurs. Mais l'armée n'est pas coupable dans son entièreté. C'était une partie des généraux. c'était une partie du pouvoir. Enfin, tout ça a été décrit aussi bien par les journalistes que par les écrivains. Je pense à Yasmina Khadra qui a très bien décrit ça.
Bien sûr.
Évidemment.
Complètement.
Il faut y aller dans les musées.
Complètement conçu.
Bien sûr que oui.
Oui, oui.
Évidemment, évidemment. Il faut y aller dans les musées.
Complètement.
Bien sûr que oui.
Et les rendez-vous se prenaient la veille pour le lendemain.
Rire à quasiment. Il faut sortir de l'ornière. Là, on laisse monter cet extrémisme, cette extrême droite qui veut le pouvoir, qui veut son projet de société. Et donc, si on ne le laisse pas accéder par les urnes, et ça a été le cas, puisqu'il y a eu interruption du processus électoral, et moi je le défends, pour une fois les militaires ont fait les choses bien, en 91, si on ne les laisse pas accéder, parce que s'ils prennent le pouvoir, ils ne le rendent pas. Hein. On se souvient de certains Adolf Hitler, il a bien eu le pouvoir par les urnes, il a été élu, il ne l'a pas volé le pouvoir, il l'a eu, il l'a gagné, et puis il ne l'a pas rendu. Bon, c'est toujours comme ça que ça se passe. Donc là, les militaires ont dit stop. Peu importe leur vraie motivation, ils ont dit stop. Ben oui, mais qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Ben, ils prennent les armes, ils prennent le maquis, et terrorisent, non pas le pouvoir en tant que tel. On a tué un président, mais c'est autre chose. Ils s'en sont surtout pris aux représentations de la société. C'est-à-dire, je le disais tout à l'heure, les journalistes, dans un pays comme l'Algérie, ça représente quand même la liberté. Et puis après, je l'ai dit, les gendarmes, la police, l'armée, les intellectuels, bien sûr, parce que ça empêche de tourner en rond, les artistes, les comédiens. Et donc voilà, ils veulent confisquer toute possibilité de réfléchir. Ils interdisaient les enfants d'aller à l'école. Dans certaines régions, en Kabylie notamment, les enfants ne pouvaient pas aller à l'école. Ils avaient dit, on ne sait jamais exactement comment ça se passe, parce que l'organisation de cette sorte d'extrême droite-là, l'islamisme, c'est très particulier. Si vous emmenez vos enfants à l'école, nous allons vous tuer, et peut-être eux avec. Résultat, il y a eu plusieurs manifestations par jour qui n'étaient pas des manifestations déclarées. C'est-à-dire que les mamans emmenaient leurs enfants à l'école le matin, elles allaient les chercher le midi, elles les ramenaient, et puis elles allaient les chercher le soir. C'était une manif, ça. Parce qu'elles ont dit, on y va quand même. Et les enfants ont continué à être scolarisés, je ne dis pas. Peut-être que les choses ont été un peu enjolivées, c'était peut-être pas aussi simple que ça, parce que c'est pas simple. Et on en reviendra peut-être tout à l'heure. Qu'est-ce qui vient de se passer, ce qui se passe actuellement en France, on peut avoir la trouille aussi. Et là-bas, c'était la trouille, c'était permanent. Et c'est humain. Il faut avoir peur d'ailleurs, parce que si on n'a pas peur, on est inconscient. Bon. Et bien elle le faisait quand même. Il y a eu une résistance inouïe de la part de la société algérienne, donc des citoyens algériens. C'était pas une guerre civile, contrairement à ce qu'on a raconté à l'époque. C'était une guerre de quelques-uns contre la société civile. C'est pas tout à fait la même chose. Une guerre civile, il y a deux clans, avec des armes. C'est pas une guerre civile. Une guerre civile, c'est quoi? On a vu ça dans d'autres États. C'est pas ça du tout. Là, on a une minorité qui veut imposer par la force un dogme religieux, parce que derrière, il y a un projet de société. Et je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. À l'époque, déjà, tout le monde n'était pas d'accord. On disait, ils n'ont pas de projet. Mais si, ils avaient un projet. Quand même, une grosse majorité a refusé. Les femmes ont été parmi les premières à se battre. Il n'y avait pas que les femmes. Mais les femmes étaient dans les manifs, avec les hommes. Et aujourd'hui, on retrouve quelque chose d'à peu près analogue avec le Irak.
L'étoile, croix et croissant, c'est plus que les boutons d'une manette de play. Remplace croisade en croissance, spiritueux en spirituel. C'est la foi face à la science, un peu comme l'histoire de Jérusalem. Je suis Yann, Artus Bertrand, je dis qu'il n'y a rien de rationnel dans ma race humaine. Avec les saintes écritures, on devait gommer les différences. Résultat des courses, on a mis des frontières jusqu'au fond de l'océan. Devenu dur avec les faibles, faible avec les puissants. Et à chaque fois que ça pète, nos failles sont les épicentres.
Là, on est à la fin des années 90, on est à la fin de cette décennie. Au début, assassinat individuel, ce qui est en train de se passer ici. Ciblé, très ciblé. Et puis progressivement, alors de temps en temps une bombe, dans un journal, par exemple à la Maison de la Presse, c'est le soir qui avait le plus souffert, mais pas que le soir, parce qu'il était au rez-de-chaussée, des morts partout, des morts à l'intérieur, des morts à l'extérieur, les passants. Ça, c'était donc à la maison de la presse, place du 1er mai. Et puis ensuite, massacre de masse, c'est de la communication. Le terrorisme fonctionne avec la communication. Ils communiquent, ce sont des communicants extraordinaires. Il faut faire peur, il faut terroriser. Donc ils savent comment faire. Et ils savent aussi, maintenant, encore plus qu'à l'époque, où il n'y avait pas les réseaux sociaux en Algérie, dans les années 90, nous non plus. Bon, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est encore plus facile. Le jeune Tchétchène, il vient de massacrer ce prof. Il l'a décapité avec un couteau. Il faut imaginer ce que ça veut dire. Il le décapite avec un couteau.
C'est quelque chose qui est difficile techniquement à faire.
Ah ben moi, je me demande s'il était encore vivant aujourd'hui et s'il était vivant dans 10 ans, comment il fera pour vivre avec ça. J'en ai parlé avec des gens qui sont sensibilisés, qui m'ont dit il vivra, il aurait vécu. Parce qu'ils n'ont pas de... C'est comme ça, ils sont comme ça. Bon, peu importe. Là, il était tué tout de suite. Pas tout de suite. Il tranche la pas seulement la gorge, il égorge avec un couteau. Il s'en va, et pendant qu'il s'en va, il prend son smartphone, peut-être un iPhone, ils ont peut-être des moyens, et il prend le temps d'envoyer la photo du cadavre avec la tête du cadavre décapité. C'est quand même assez incroyable. Et parce qu'il faut communiquer. Oui, j'ai fait ça. Oui, c'est horrible. Il fallait que je le fasse. Mais maintenant, il faut que ça se sache.
Oui, bien sûr.
Évidemment.
Complètement.
Il faut y aller dans les musées.
Complètement conçu.
Bien sûr que oui.
Oui,
évidemment. Évidemment. Il faut y aller dans les musées.
Complètement.
Bien sûr que oui.
Et les rendez-vous, prenez la veille pour le lendemain. Rire à Casino.
Il faut se. Et là, le gars à Nice recommence le même truc, mais cette fois-ci, là, c'était un attentat ciblé. Un prof d'histoire géo qui avait montré, expliqué des caricatures. Très bien, c'est ciblé. À Nice, la basilique ouvre à 8 heures. Le sacristain vient ouvrir à 8 heures comme tous les jours. Le gars entre à 9 heures et... parce qu'on sait qu'il y a des gens qui viennent... Il n'y avait pas d'office, il n'y avait rien. Mais il y a des gens qui peuvent entrer, donc ils vont, des chrétiens qui vont prier. Des personnes âgées, en l'occurrence, c'était une dame de, je ne sais plus, 80 ans, je pense. Et puis le sacristain. Et puis il y en avait une troisième de 40 ans, c'est vrai. Il a tâché, apparemment il n'avait pas la bonne technique qu'avait l'autre, il a tâché de les décapiter, il n'a pas, si j'ai bien compris, c'est horrible, hein, c'est dégueulasse. Il n'a pas complètement réussi, mais quand on a un petit peu étudié le terrorisme que je viens d'évoquer en Algérie, on sait très bien, on a l'impression d'avoir la tête sur les épaules, ça ne tient pas avec grand-chose, hein. Il n'y a pas beaucoup d'os. Hein. Il n'a pas réussi quand même son coup complètement, mais c'est ce qu'il voulait faire. Il voulait reterroriser de la même façon. Mais cette fois-ci, en s'attaquant à des anonymes. Cette dame, elle venait pour prier, tout simplement. Le sacristain, je ne sais pas quel âge il avait, 60, 70, il faisait son boulot, il avait ouvert, et puis il était là. Ce sont des croyants. Et puis, on va attaquer des croyants qui ne sont pas de notre religion. J'avais cru comprendre que ce soit Mahomet, le Christ, ils sont tous des prophètes. Hein. C'est le même Dieu pour l'islam. C'est le même Dieu qui s'appelle Allah.
Oui, bon. Jésus-Christ pour les musulmans est un prophète de Allah.
Là, apparemment, il y en a qui ne croient pas ça. Puisqu'ils veulent éradiquer une autre religion. Non, ils veulent communiquer, tout simplement.
Canon de fusil en forme de minaret. Tu dessines une croix sur un missile croisière. Étoile de David sur une machette rwandaise. Buste de Bouddha sur pommeau de glaive. On me refoulait des fourrailles en camtar. Jeune femme est soumise à un banc phallocrate. Que Dieu bénisse la bouffe de mon Instagram. Halal ou haram, ça part au gaspillage. Porte le hijab sur ton profil Tinder. Acquitte la zakat avec bif de dealer. Paye ta bar mitzvah au club le hustler. T'es passé d'enfant de cœur au métier d'escort girl. Tes os du Gange à la piscine du loft. Le viseur ton gun c'est le logo peace and love. Tu crois que le pauvre est un vide poche de pieds jaunes. Que Snoop Doggy Dogg est un prêtre orthodoxe. Tueur de Mars, mangeur d'organes. Trader ne pense qu'à paraffer les bas de page. Un centre commercial baptisé Karl Marx. On est dans les mystères insondables de l'âme.
On passe au rouge chaque lundi de 19h à 20h sur Radio Campus 106,6. Philippe Allienne compare le terrorisme en France et celui qu'a vécu l'Algérie dans les années 90. Mais il nous livre les limites de cette comparaison. Il évoque aussi l'expression islamo-gauchiste et la responsabilité des États dans le terrorisme.
On n'est pas dans le systématisme qu'on a connu en Algérie. C'est, là, c'est ça la question que je me pose. Ce n'est pas le même contexte. Ce n'est pas le même but. Eux, ils sont dans une mouvance beaucoup plus large. Mais ils sont seuls. Ou pas tout à fait. Celui de Conflans n'est pas seul. On a vu comment ça a fonctionné. C'est un truc incroyable. Ça commence par une diffamation d'un père de famille qui écoute sa fille, qui n'était même pas au cours, qui lui dit « Papa, on nous a montré des photos du prophète nu ou d'un homme nu. » Enfin, on nous a montré des dessins pornographiques. En gros, c'était ça. Lui qui ne sait pas, il proteste, il va voir le prof, il exige qu'on le vire. Il ne va pas voir le prof, il ne veut pas le voir. Il va voir la proviseure, qui, elle, va essayer de mettre en place une médiation avec le recteur ou la rectrice, qui va, je devrais peut-être pas dire ça au micro, mais qui va commettre, à mon avis, l'erreur d'accepter de recevoir et le père et ce type qui n'a rien à voir là-dedans, c'est Frioui, le prédicateur, imam, je ne sais pas comment il faut dire, fabricant de terroristes, quoi. C'est le penseur un peu, c'est celui qui dit, mais c'est pas un penseur au sens, c'est pas un athélo, hein. Bon, mais voilà, il faut aller massacrer ce type. Et résultat, le terroriste, il se rend sur place, se rend devant l'école, il sait même pas qui il a affaire. Il a pas préparé son coup. En Algérie, il préparait leur coup.
Oui, bien sûr.
Évidemment, il faut y aller dans les musées.
Complètement conçu.
Bien sûr que oui.
Oui,
évidemment, il faut y aller dans les musées.
Complètement.
Bien sûr que oui.
Et les rendez-vous, il prenait la veille pour le rire à quasiment.
Il faut sortir. Il n'a pas préparé son coup. Il ne sait pas à qui il a affaire. Il doit demander à des gamins de le décrire. Et il les paye pour ça. En partie, parce que c'est un escroc, c'est normal. Ce sont tous des escrocs. Et il le paye en partie. Il paye les deux gamins en partie. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir le reconnaître et le décapiter. L'autre avait déjà commencé, le prof avait déjà commencé à changer de chemin pour rentrer chez lui. Bizarre. C'est ce que faisaient ceux qui se sentaient victimes en Algérie, ceux qui se sentaient visés en Algérie.
Modifier le quotidien.
Je pense notamment aux journalistes, là, que j'ai approchés de très près à l'époque, qui avaient installé des lits dans leur bureau, dans leur rédaction, et qui sinon changeaient d'adresse quasiment tous les jours. Ce qui ne les a pas empêchés, pour certains, de se faire massacrer. J'en ai connu un en particulier qui avait changé d'adresse. Il a quand même été repéré. Ils repèrent. Ils ne disent pas on va aller te tuer demain. Ils prennent le temps. Là, non. Mais il y avait quand même des gens autour qui l'ont incité. Alors, qu'est-ce qu'il avait dans la tête, ce Tchétchène de 18 ans? Je ne sais pas. Je me désolidarise complètement de ce qu'a dit, sous le coup peut-être de la colère, M. Mélenchon, parce qu'il ne faut pas tout mélanger. Peut-être qu'il était nourri à des idées extrémistes en Tchétchénie. On sait, bien sûr que c'est vrai que ça existe. Mais là, en l'occurrence, on a affaire à quoi? Est-ce que c'est un loup solitaire ou pas? Moi, je crois que là, ce n'est pas ce qu'on appelle un loup solitaire. Ça n'existe pas réellement, les loups solitaires. Il faut bien qu'ils soient manipulés par quelqu'un, par quelque chose. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'il n'y a pas une organisation énorme derrière. Al-Qaïda, ça, ils ne peuvent plus. Donc c'est pas comme ça que ça marche. Mais il y a quand même toute une mouvance qui fait qu'on a envie de continuer, on veut continuer à entretenir la terreur pour imposer ces idées. Et le contexte international fait que ça n'arrange pas les choses. Le conflit entre la Turquie et la France en ce moment, ça n'arrange pas les choses.
Une histoire vraie, racontée par des menteurs. Les foules ont interféré dans le message de l'auteur. Les forts s'en sont emparés pour toujours mieux dominer. On s'est fait électrocuter par des courants de pensée. Protégeons la foi d'elle-même. N'en faisons pas qu'un tutoriel. Dépoussiérons l'Emmanuel. Réunissons frère et sœur Emmanuel. C'est comme dans le film avec Denzel. Faudrait moins lire au pied de la lettre. Car là où l'homme enflamme le texte, il finira par y brûler des êtres.
Et on en revient à ce truc qu'on appelle l'islamo-gauchisme, qui est ce pourquoi on a attaqué notamment la France insoumise. C'est quoi l'islamo-gauchisme? Pour moi, c'est un truc qui n'est pas nouveau. Hein. C'est quelque chose qui est critiqué depuis très longtemps. À l'époque, c'était les trotskistes qui étaient accusés d'islamo-gauchisme, parce que la théorie, c'est de dire attention, l'islam, pas l'islamisme. L'islam, c'est la religion des pauvres. ici en France, parce que les jeunes et puis même
c'est
leurs
le
parents.
De
ouais, c'est ça. Sauf que on aurait pu dire la même chose de la religion chrétienne ou catholique, de toutes les religions. On sait très bien comment ça fonctionne. À partir du moment où il y a un pouvoir derrière, ça devient très dangereux. Et là, ça fait quand même très longtemps que ça dure. Alors, je suis pas. Là, ça devient très délicat d'analyser ce genre de choses. Parce que il ne faut pas non plus risquer de brouiller le propos à tel point qu'on pourrait dire oui, mais là, vous emboîtez le pas à l'extrême droite. Pas du tout. C'est pas ça du tout. Simplement, ici, nous sommes dans une république laïque et sociale, en principe. Bon, c'est pas toujours clair, mais bon. En tout cas, voilà. Moi, je suis quelqu'un de gauche. Je suis journaliste engagé à gauche. Donc, je défends cette république laïque et sociale. Liberté, égalité, fraternité, égalité, fraternité, liberté. Il faut à ce moment-là être clair et puis se rappeler de nos fondamentaux. Ça ne date pas d'hier. Ça date d'un peu plus d'un siècle, la loi de 1905. La séparation de l'Église et de l'État, c'était pas que ça. C'était pas que la séparation. Il ne suffit pas de dire ça. Aujourd'hui, on en est où? On en est à un point où l'État républicain, laïque, finance des lieux de culte. Je ne parle pas des mosquées, hein. Je parle de lieux de culte chrétiens, oui, catholiques.
Évidemment, complètement. Il faut y aller dans les musées.
Complètement conçu.
Bien sûr que oui.
Oui, oui.
Évidemment, évidemment. Il faut y aller dans les musées.
Complètement.
Bien sûr que oui.
Et les rendez-vous se prenaient la veille pour le lendemain. Rire à Casiroir. Il faut sortir de l'ornière. On finance un ascenseur parce que ça permet aux gens de faire du tourisme. Oui, mais c'est un truc catho. On finance tel lieu catholique parce que il y a des expositions à l'intérieur. Donc c'est de la culture. On finance pas les cathos, on finance la culture. Mais non. Il y a des lieux pour ça, non? Il y a des lieux culturels, ça existe. On finance les écoles privées. Bon, on sait très bien hein, la loi Fallou. Oui. Bon, oui, mais jusqu'où on va? Alors tant que c'est de notre côté, parce qu'il paraît que nous sommes ici en France d'une culture chrétienne. Avant on disait judéo-chrétienne d'ailleurs, maintenant on préfère dire chrétienne. Moi je ne me sens pas particulièrement attaché à une culture chrétienne ou judéo-chrétienne. Moi je suis plutôt universaliste là-dessus. Ça ne m'intéresse pas trop. Mais à partir du moment où l'État, c'est-à-dire nous, les apôtres, financent des lieux de culte. Mais il ne faut pas s'étonner qu'après, les autres disent « et nous ». Et donc, si on construit une école, un lycée privé musulman, mais il n'y a pas de raison de s'y opposer. Il n'y a pas de raison. Pareil pour... Et ça existe aussi dans la religion juive. Seulement, là, c'est plus discret, on n'en parle pas trop. Et puis, ça fait tellement peur, parce que si on dit, dès la moindre critique, on va être catalogué. Mais moi, je dis, il faut rester côté république laïque. Voilà. Si on part dans des dérives comme celle-là, on n'en sort plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait en contrepartie? On fait des lois. Alors en 2004, on fait une loi contre le voile à l'école. En 2010, je crois, on fait une loi contre le voile intégral dans la rue. Là, on va faire une loi contre les séparatismes. Et après, ça change quoi? Ça a changé quoi, ces lois-là? Rien. Ça a permis de stigmatiser des gens. Alors, ça ne sert à rien. Et puis, ça n'a surtout pas empêché ce qui se passe en ce moment. Et moi, je ne suis pas sûr que ça va s'arrêter comme ça. Oui, les États ont des responsabilités. Les pouvoirs ont des responsabilités. Pas seulement les pouvoirs étrangers. Le pouvoir français a une responsabilité.
Mais les livres sont silencieux. Seuls les hommes leur donnent de la voix. Si l'homme est à l'image de Dieu, il est photoshopé par le diable. On n'est plus que des avatars, pilotés par nos idoles. Si la religion c'est l'opium du peuple, c'est que le peuple a pris pour religion l'opium.
On passe au rouge, une émission que t'écoutes quand tu veux, en podcast sur campuslille.com. On retrouvera Philippe Allienne, rédacteur en chef de Liberté Hebdo, le journal communiste du Nord, lundi prochain pour la suite de cette interview sur le terrorisme. Liberté Hebdo est un journal papier à lire et à soutenir, bien sûr. Un appel à la souscription est en cours sur la page suivante, libertéhebdo.fr. On passe au rouge se termine toujours avec la rubrique de Massy et Toto par tant de rage. Leur amour de la liberté aura-t-il raison cette fois-ci de la raison sanitaire ?
Massy revient dans la partie.
Et par tant de rage, on revient aujourd'hui avec une chronique pas si évidente que ça à écrire, à penser et à enregistrer. Il y a 2 semaines, le gouvernement nous a annoncé le couvre-feu. On a fait une chronique dessus, mais en y réfléchissant, en continuant à se documenter et en prenant un peu de recul, on s'est dit que ce n'était pas forcément une mauvaise chose.
Donc on voulait faire une anti-chronique, une chronique allant démonter celle de la dernière fois pour avoir une vision un peu plus globale. Mais Macron nous a stoppé dans notre élan en nous imposant un nouveau confinement. On va pas jouer les pro-Macron, hein, mais on va penser pourquoi prendre des mesures sanitaires restrictives n'est pas si déconnant que ça.
Nous n'oublions pas nos positions de base sur le gouvernement, mais là tout de suite, il faut les mettre de côté. Ce couvre-feu avait une utilité. Il rentrait dans une logique de diminution de la propagation du virus et non dans une logique de dictature sanitaire qui a été tant décriée par les anti-masques et sur les différents réseaux sociaux. Seulement, que devait permettre ce couvre-feu et les différentes mesures prises en son sens ? Parce qu'on considère que les mesures prises en charge ne sont pas suffisantes. Aujourd'hui, nous avons des chiffres de contamination quasiment identiques à ceux que nous avions en mars. Rien n'est épargné par ce virus. Il y a juste des endroits plus contaminants que d'autres. Le but derrière ce couvre-feu, c'est de limiter les effets négatifs, notamment économiques mais aussi sociaux, en évitant un second confinement. Il y a 3 secteurs sur lesquels on peut agir pour diminuer les contacts interpersonnels. Le travail, l'éducation et les loisirs. Avec le couvre-feu et les différentes mesures, le gouvernement a choisi d'agir sur les loisirs. Les loisirs comme le sport, le cinéma, les musées ou encore les soirées entre copains infectent énormément. Ce sont les loisirs qui contaminent le plus les 20-29 ans.
C'est horrible pour nos conditions et nos relations sociales. Comme l'écrit Marx, un homme qui dispose d'aucun loisir, dont la vie tout entière en dehors des simples interruptions purement physiques pour le sommeil et les repas, est accaparé par son travail pour le capitaliste et moins qu'une bête de somme. C'est une simple machine à produire de la richesse pour autrui, écrasé physiquement et abruti intellectuellement.
Seulement, ce couvre-feu est cohérent, parce qu'il n'est pas mis en place dans une logique de sauvegarde d'un pouvoir ou de protection d'une idéologie politique, mais dans une logique de lutte contre une pandémie. Aussi, il n'était pas suffisant, car l'école et le travail restent des lieux extrêmement contaminants. Pour que le couvre-feu soit efficace, il aurait fallu prendre des dispositions sur le travail, en mettant par exemple du télétravail dès que c'est possible pour diminuer les effectifs dans les bureaux, et sur l'école, avec les cours à distance. Mais c'est quand même moins douloureux, moins violent pour l'économie d'agir sur les loisirs. Faut pas déconner, il faut quand même que le capitalisme puisse prospérer encore un peu. Pour ce qui est de l'éducation, c'est vrai que l'école à distance augmente les inégalités. Mais pour endiguer le virus, ce qu'il faudrait, c'est prendre des mesures sur ces 3 facteurs. Vider les rues et les transports en commun, quitte à perdre en bourse. Et là, on retourne à un confinement tout aussi insuffisant.
Macron nous l'a annoncé dans un discours d'une 20aine de minutes, comme il en a l'habitude depuis le début de son quinquennat. Un confinement de minimum 4 semaines, mais un confinement nettement différent du premier. Hein. On va pouvoir travailler, on va pouvoir se serrer dans les transports, aller sur nos lieux de travail, échanger avec nos collègues, puis rentrer avec les mêmes personnes qu'on a vues le matin dans les transports et retourner contaminer le cercle familial. Et toutes les personnes qu'on a croisées dans la rue reproduiront la même chaîne de transmission. Et on ne parle même pas des transmissions qu'il peut y avoir dans les grandes surfaces, où les mêmes imbéciles se battent pour 3 paquets de pâtes et 6 rouleaux de PQ.
Non, les mesures appliquées durant ce confinement ne sont pas suffisantes. Ils ne protègent ni les travailleurs, ni les enfants, ni les vieux. Et Macron ne protège même pas le milieu hospitalier. Mieux, il lui manque de respect. Il se fout de sa gueule. Le respect ne ruisselle pas chez Monsieur Macron, tout comme l'honnêteté d'ailleurs. Voici ce qu'il a déclaré.
Nous aurions collectivement sans doute dû davantage respecter les gestes barrières, en particulier au sein de la famille ou avec les amis qui sont les lieux où nous sommes le plus contaminés. Mais surtout, il faut reconnaître que, comme tous nos voisins, nous sommes submergés par l'accélération soudaine de l'épidémie.
Je ne sais pas si Macron a les mêmes chiffres que nous. Hein. La majeure partie des contaminations ont lieu sur les lieux de travail, dont l'école, pas dans la famille. La famille doit se classer 3e ou 4e. Mais le gouvernement préfère rompre le confinement familial pour envoyer les gens bosser et les reconfiner le soir. Et surtout, hein, soyez productifs, on a une économie à faire respirer. sachant que la deuxième vague aurait pu être mieux anticipée, parce que contrairement aux déclarations de Macron, nous ne sommes pas surpris par la rapidité de la seconde vague. Le conseil scientifique a annoncé dès le mois de juin qu'une deuxième vague épidémique se dessinait pour la fin octobre, et le personnel soignant s'inquiétait déjà à la fin du mois d'août. Mais le gouvernement a joué les sourds, a continué sa branlette sur les graphiques de la bourse, et s'étonne aujourd'hui de se prendre la deuxième vague en pleine gueule.
Bah ouais Manu, c'est quand même facile de culpabiliser les petites gens en bas de l'échelle quand toi en haut tu prends pas tes responsabilités. Rien n'est logique dans cette histoire, ni le discours, ni le confinement. Parce que les petits commerçants sont encore victimes des politiques restrictives. Le mot victime est important. On pense que le petit libraire du coin doit réduire son activité, même si c'est difficile. Mais les putains de grands groupes aussi!
L'épidémie a chamboulé nos vies. Le ou la Covid a chamboulé la face du monde. Le seul truc qui n'a pas été chamboulé, c'est la politique libérale puante que Macron applique depuis presque 5 ans sous ses étiquettes de ministre ou de président. Ce confinement ne protège pas du virus, il protège uniquement l'économie et l'intérêt des puissants. Mais respectons ce confinement, parce que même si c'est difficile, même s'il souffre, se protéger aujourd'hui, c'est respecter le milieu hospitalier. Nous protéger, c'est protéger nos blouses blanches qui claquent dépression et burn-out. Ce n'est pas dans un bâtiment en feu que nous devons parler de la sécurité incendie.
Soyons pragmatiques, confinons-nous. Faisons de ce confinement le dernier. Les explications, elles viendront après. Préparons-nous à nous organiser collectivement, en syndicat ou en collectif. Apprenons de notre passé et de notre présent pour ne pas recommettre les mêmes erreurs et embellir l'avenir. Nos salutations révolutionnaires et à la semaine prochaine.
Message au gouvernement qui semble se rappeler miraculeusement que nous existons, nous le corps médical. Hier encore, à coups de lacrymo, c'est comme ça que tu les matais, tes soi-disant héros. À bout de souffle, est le secteur de la santé. Bien sûr que je peux t'en parler, moi, je prends quartier. Deux AS, une quarantaine de patients. On fait du mieux qu'on peut, tout en sachant que ce n'est jamais assez, qu'on est bien trop limité, qu'il nous faudrait plus de bras pour des soins de qualité. C'est triste, je vois des infirmières en pleurs, plus de temps passé ici que dans leur propre demeure. Apérant, le constat est atterrant, pas assez pour émouvoir ce cher monsieur Véran. Ça, c'est le résultat d'une politique basée pour l'essentiel sur la rentabilité. Comment s'occuper d'autrui dans un état critique? Dépression, burn-out, nos vérités. Marre d'entendre, il va mourir de toute façon. Tout ça parce que les lobbies ne tiennent pas compte de l'inflation. Au royaume des blouses blanches, te garantis qu'il fait noir. Y'a qu'à voir les urgences se changer en mouroir. Elle vaut combien la vie de l'humain? Même plus le temps de lui prendre la main. Aujourd'hui, une saloperie nous dessine. Du haut de leur piédestal, les puissants nous font des signes. Le monde tremble, c'est logique. Est-ce un virus, une guerre bactériologique? Nous combattrons encore, bien entendu. Tu sais, pour être au front, le Covid, on l'a pas attendu. Merci.
Vous vous rendez compte que votre plateau est toujours surreprésenté par la gauche?
On veut bien être gentil. Mais pas con.
La première chose qui te saute aux yeux, les briques, c'est les briques rouges.
C'est le capitalisme. Mais jouez pas au con avec
lui. On est trop gentils.
Le rouge, c'est la couleur du sang. Le rouge, c'est la couleur des Indiens. C'est la couleur de la violence.
On est gentil. Hein? On est toujours gentil.
C'est le capitalisme.
Le rouge, je dis, arrête-toi.
Mais le rouge, c'est aussi la couleur du vin. Le vin qui dit vin, qui porte vin. Parce que tout ça, c'est magouille et compagnie. C'est politico. Tu vois, c'est des histoires de fric.
Je vote pas pour les capitalistes, hein.
Que Véran.
Bon, je suis ouvrier.
On est trop gentils.
C'était On passe au rouge, l'émission de la lutte des classes du lundi 19h à 20h. On se retrouve la semaine prochaine sur cette même antenne du 106,6. Merci à Gigi, merci à Massy, à Toto, à Flavien et à toi Seb pour la réalisation. En attendant, portez-vous bien et à lundi.
Française, français. C'est la merde. Je suis contaminé par le Covid-19, ça fait chier. C'est pourquoi j'ai décidé de sortir au maximum afin de augmenter massivement la propagation du virus. Et la priorité absolue, c'est que tu aies vos amis, vos parents, vos grands-parents. Il faut que tu aies au maximum les personnes vulnérables. Respectons rien. Je veux aussi ce soir frapper plusieurs milliers de scientifiques. J'en ai rien à foutre. Putain, je suis en colère. J'ai envie de sortir niquer l'ensemble des scientifiques, médecins, infirmiers, mais aussi l'ensemble de vos amis, vos parents, vos grands-parents. Je vous demande de rester chez vous pour au moins 70 ans. Toutes les entreprises doivent agir sur leurs salariés. Nous devons tous céder à la panique, à la peur. Rien à foutre.
Thank you.
Pendant l'épidémie, quels que soient vos problèmes de santé, faites-vous soigner. Que ce soit en téléconsultation ou sur place, en cabinet ou dans les hôpitaux, tout est organisé pour éviter les contaminations. Continuez à prendre vos médicaments et ne reportez pas les examens qui vous sont prescrits. Si vous êtes enceinte ou si vous avez un bébé, maintenez les rendez-vous de suivi et les vaccinations obligatoires. En cas d'urgence, appelez immédiatement le 15. Retrouvez plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.